Synthèse du chapitre 10. Les usages sociaux et politiques du patrimoine. 1. Les usages sociaux du patrimoine. Le patrimoine est, au premier sens du terme, un bien à transmettre. Le terme s'applique d'abord dans le cadre privé, désignant les biens hérités de la famille et qui sont à transmettre aux générations suivantes. Mais il prend un sens public plus large quand il s'agit d'une famille régnante, dont le patrimoine correspond donc à celui de l'État, ou quand il s'agit de biens appartenant aux dieux, Grèce antique, ou à l'Église, chrétienté médiévale. Une conscience patrimoniale se développe à partir de la Renaissance, grâce à la valorisation des antiquités et au mécénat. Le patrimoine se définit progressivement du XVIe au XIXe siècle. En colonisant le monde, les Européens s'emparent du patrimoine d'autres civilisations. Le rôle de l'État dans la constitution d'un patrimoine national s'accentue avec la Révolution française. Au XIXe siècle, le patrimoine est défini par de nouvelles lois qui le rendent inaliénable et imprescriptible. Les États-Unis étendent la notion de patrimoine à la nature avec la création des premiers parcs nationaux, Yellowstone en 1872. Cette définition occidentale du patrimoine est contestée parce qu'elle ne cadre pas avec d'autres cultures ou qu'elle néglige le rôle des femmes. Au XXe siècle émerge la notion de patrimoine mondial. La construction des identités, nationales, ethniques, régionales, se fait souvent par la valorisation du patrimoine. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'UNESCO et diverses ONG font émerger un patrimoine naturel et culturel à l'échelle mondiale en établissant une liste de sites à protéger. Le patrimoine culturel est étendu en 2003 à la notion de patrimoine immatériel. 2. Les usages politiques du patrimoine. Le patrimoine peut être instrumentalisé à des fins politiques. À différentes périodes, il a pu être mis au service d'une idéologie ou d'un pouvoir, notamment au XXe siècle par les régimes totalitaires. Parfois aussi, le patrimoine peut être effacé pour construire une identité en adéquation avec un régime politique en place. C'est le cas au Japon au début de l'ère Meiji, lorsque certains éléments du patrimoine bouddhiste sont détruits. Le patrimoine peut engendrer des conflits quand il s'agit de gérer l'héritage d'un régime précédent ou de commémorer un auteur controversé. Le patrimoine est un enjeu de puissance. La diplomatie du panda de la Chine ou l'organisation par la France de sommets politiques au château de Versailles montrent que le patrimoine est un outil géopolitique. Les pays émergents valorisent leur patrimoine pour accroître leur prestige et leurs revenus touristiques. Le patrimoine constitue un marché très important pour les grandes maisons de vente aux enchères. Mais le patrimoine fait aussi l'objet d'un commerce illicite et participe à une forme de mondialisation grise, blanchiment d'argent, financement d'organisations terroristes, etc. Le patrimoine est aujourd'hui au centre de nombreux débats. La restauration du patrimoine bâti doit se faire à l'identique selon les défenseurs de la Charte de Venise, 1964, d'une manière créative selon d'autres. Si tout le monde pense que les œuvres d'art volées doivent être restituées, il reste à préciser la définition du vol. Le terme doit-il s'appliquer aux frises du Parthénon transférées à Londres au début du XIXe siècle et à toutes les œuvres africaines apportées en Europe par les colonisateurs ?